On va
Après
refermer.
que...
Vas-y, Charlie. Pour
Non,
conclure.
j'allais dire oui, puis autour de lui, disons que quand on a un gardien comme ça derrière et qu'on est défenseur, il y a une confiance qui s'installe. Et quand on sait que la confiance dans le football, c'est ultra important, voilà, quand on a un gardien comme ça derrière nous, je pense qu'on a plus confiance en soi, plus confiance en nos partenaires et forcément tout va mieux, quoi.
On va refermer ce chapitre consacré à l'Atlético de Madrid. On va se reconcentrer maintenant sur l'Olympique de Marseille. Et justement, quelle solution pour cet OM-là, pour affronter l'armada du Cholo Simeone? À votre avis, que va faire Rudy Garcia? Je m'adresse à Mourad et à Bastien Ambroy, qui sont, en plus d'être journalistes, sont d'excellents supporters de l'OM. Ou l'inverse.
c'est assez difficile. Je pense que l'une de nos armes principales depuis 2-3 mois, ce sont les coups de pied arrêtés. Malheureusement, sur les coups de pied arrêtés, j'ai l'impression que l'Atlético sait à peu près défendre, on va dire ça comme ça. Donc, Dimitri Payet n'a pu marquer de coup franc depuis le mois de janvier contre Bourg-en-Bresse, de coup franc direct. Donc, c'est un peu le rêve qui plane sur Marseille ces derniers jours, hein, pas vous mentir. C'est aussi un petit peu mon rêve. Donc, c'est ce que c'est en jeu, c'est, semble difficile à bouger l'Atlético. Donc, il y a cette histoire des coups de pied arrêtés. Et puis ensuite, il y a aussi. C'est assez difficile, quoi. Je pense qu'on y croit tous. Mais un peu, l'ambiance, elle est quand même un peu teintée, pas de fatalisme, parce qu'on y croit et on se dit qu'en 93, le rapport de force était le même avec Milan. Mais on voit quand même que l'Atlético est plus fort partout, à peu près. Donc, voilà, il y a les coups de pied arrêtés. Et ensuite, il y a le, comment dire ça sans être méchant, l'incongruité ou le facteur X, on va l'appeler comme ça, Mitroglou, on ne sait pas pourquoi, mais tout Marseille pense qu'il va faire quelque chose demain. Donc, Kostas Mitroglou va marquer un but demain, on ne sait pas comment, mais vraiment, sur le papier, c'est assez difficile de voir vraiment un axe par lequel attaquer l'Atlético et sur lequel on est supérieur, on peut vraiment faire une grosse différence. Mais on y croit, c'est pas
mal. Une interrogation que j'avais ce matin et me poser la question, c'est... un Kostas face à Godin, ça va faire énormément d'étincelles, mais on sait que Godin, il adore ça, il adore les duels, il adore être sous pression, il adore avoir un combat, avoir quelqu'un en face de lui, de bouger. Kostas adore ça aussi, mais je ne suis pas sûr que mettre Godin dans de bonnes conditions soit la meilleure idée pour l'OM. Après, je ne dis pas que Germain soit une bonne idée, mais c'est à réfléchir parce qu'on sait qu'en plus que l'Atlético évolue en bloc, les lignes sont très très resserrées. Est-ce que Kostas va réussir à faire le boulot entre les lignes, à trouver des angles de passe, à vraiment réussir à faire voir sa palette technique pour aider son équipe à progresser, à trouver des espaces et à progresser dans l'équipe adverse, dans la surface adverse? C'est une vraie interrogation parce que voilà, on attend tous Kostas,
Quel état physique, c'est important aussi de se dire que beaucoup de joueurs qui pourraient être importants dans cette finale à l'OM, à Kostas Mitroglou, parce que pour tout ce que tu viens d'expliquer, Dimitri Payet, même Bouna Sarr, pourquoi pas. Il y a beaucoup de joueurs sur lesquels il y a des interrogations physiques. Même Florian Thauvin, il revient quand même d'une blessure il y a à peu près un mois de ça, si je ne dis pas de bêtises. Et on le sent vite émoussé sur ses derniers matchs. Il joue uniquement sur ses points forts et il a raison parce qu'il a fait une saison énorme et qu'il arrive encore à être décisif et ce qui fait c'est assez grand à l'Olympique de Marseille. Mais on le voit aussi qu'il n'est pas dans une forme physique éblouissante. Donc il y a ce facteur-là aussi qui va être très important. Et c'est pour Kostas et pour Kostas Mitroglou, c'est un peu ça aussi, dans quel état il va être. Et ouais, après Valère Germain, forcément, on a tous les supporters marseillais ont un peu peur qu'il se fasse manger, qu'il puisse pas exister dans les duels, parce que
attention, il est malin. Attention.
Qu'est-ce qu'on aurait pour en parler? Je pense que peut-être un Germain qui va plus fuir le combat, ça
mais
peut.
Bien sûr. Et qui va essayer de faire sortir l'axe, un des deux de l'axe.
Bien sûr.
D'ailleurs bien moi, sûr. À coup sûr, et je pense que c'est Germain qui va jouer parce que, un, Kostas n'est pas prêt physiquement. Deuxièmement, si j'ai une réflexion coach, moi qui étais défenseur central, évidemment que je préfère avoir un Kostas Mitroglou qu'un Germain parce qu'il y a moins de parcelles à parcourir. Kostas Mitroglou n'ira pas sur les côtés pour déborder. prendre la passe d'un Ocampos ou d'un Thauvin, on va lui demander justement de pouvoir canaliser les deux actions, auquel cas aussi il a même de la densité. Et la présence d'un Germain, par exemple, avec du mouvement, toujours sans cesse à essayer de se déplacer devant, à droite, à gauche, des centraux, essayer de décrocher, comme ils l'ont très bien fait vendredi à Guingamp, où il y a un central qui s'est fait aspirer pour que Thauvin plonge dans son dos, et c'est Ocampos qui a centré, c'est Thauvin qui a marqué de la tête. Ça, c'est un plan de jeu qui est parfaitement réalisable, même contre l'Atlético de Madrid.
C'est exactement ce que j'allais dire. Pour moi, l'animation offensive va beaucoup dépendre du choix tactique de Rudy Garcia. On ne sait pas encore si on va partir en 4-4-2 ou en 4-3-3 ou en 5-4 ou en 5
5-3-2,
en 5-2-3 comme on a vu contre Leipzig. Le souci du 5-2-3, même si on pourrait tenter à se dire qu'on va partir dessus avec une attaque plus à 2 du côté de l'Atlético, c'est que si on passe dans cette composition là, on se prive d'Ocampos et on met Payet sur un côté. Donc ça a marché contre Leipzig. Je suis pas certain que Payet sur un côté et pas Ocampos contre l'Atlético pour bloquer les couloirs, ce soit une bonne idée. Pour moi, la seule solution pour que l'OM s'en sorte, c'est de mettre de l'animation, c'est de jouer son jeu, c'est pas de laisser l'Atlético
s'emballer. Tu restes en 4-2-3-1. Si tu passes à 5, tu dépeuples le milieu, t'es mort.
On est d'accord. Et pour moi,
numériquement, déjà, tu peux pas combattre avec le milieu de terrain qui est le point fort de l'Atlético, qui va t'attendre dans le cœur du jeu et qui va délaisser un petit peu les côtés. Et non, moi je pense qu'ils vont rester dans leur 4-2-3-1 parce qu'il va falloir bien défendre avec un bloc de 5-6 joueurs de base. Et bien attaquer à 3-4, parce qu'il va falloir attaquer pour marquer des buts.
Ah, tout à fait.
Moi, si je suis Thauvin et si je suis Rudy Garcia, je dis, mais Felipe Luis ou pas Felipe Luis, tu prends le ballon et tu vas le percuter. C'est toi qui dois le faire défendre, c'est pas lui qui doit te faire défendre.
Et pour moi, un joueur, effectivement, toujours dans cette idée-là de percuter et de proposer des solutions, un joueur qui risque d'être important, même s'il n'est pas forcément hyper efficace, c'est Morgan Sanson. Parce que Morgan Sanson, c'est mec qui se projette vachement vers l'avant, qui est toujours à la conclusion des actions, qui est toujours à la construction des actions. On ne sait pas comment il est là. Bon, après, il ne marque pas, certes. Mais il se crée des actions, il ouvre du jeu, il dézone et il fait beaucoup bouger les défenses. Donc, quand on est un mec comme lui, quand on est un mec comme Germain devant, ben, c'est important pour que les deux dézonent, les deux font bouger les blocs et créent des espaces que prennent parfaitement Ocampos et Thauvin quand il faut les prendre.
Gustavo au milieu, Gustavo en défense.
Voilà, c'était sur ça si je voulais revenir, parce qu'en effet, Luis Gustavo au milieu ou en défense, alors certes, il a fait des très bons matchs en défense, mais on n'a plus aucune. On perd du contrôle du ballon lorsqu'il est en défense, parce qu'au milieu, il arrive avec son calme, avec sa précision technique, à faire un peu le ménage, à ordonner un peu tout ça. Donc là encore, j'insiste un peu là-dessus. Moi, ce qui m'embête un petit peu, c'est qu'à l'Olympique de Marseille, il y a beaucoup de joueurs qui, au niveau physique, Rolando par exemple, qui est normalement le titulaire derrière Rolando Rami, c'est assez défaut, mais c'est assez solide. Ben voilà, Rolando, on ne sait pas dans quel état il va être. Donc, est-ce que Garcia va être tenté de faire reculer Gustavo? Ça va être une des clés du match aussi, le match de Gustavo, forcément, côté marseillais, parce qu'il est très, très important, notamment dans le contrôle. Et si on part dans la direction que vous indiquez, donc de jouer notre jeu, de produire quelque chose, pour moi, il faut que Luis Gustavo soit au milieu. C'est assez impératif face à des clients comme il va avoir en face.
On est d'accord sur pour ces
questions. Justement, et s'il n'est pas au milieu, et donc je pose la question, moi, si demain donc Rudy Garcia choisit plutôt de le mettre en défense centrale,
tu me devances, Antonio, c'est la question que je voulais poser. Vous mettez qui? Moi, je mettrais Zambo parce que ça rajoute.
T'as pas le choix de mettre. T'es obligé de mettre Zambo.
Sinon, il n'y a pas d'autre
alternative. Tu peux pas faire Zambo, Aguissa et Camara parce que c'est trop inexpérimenté dans un match comme ça. Donc ça, c'est une certitude. Moi, je pense que si Rolando, il est à 80%, il va jouer. Et Gustavo, il va jouer au milieu. Il va alterner entre le travail défensif et l'aspect offensif sur la première relance. Et que devant, il y a 4 bonhommes qui sont capables de faire la différence à 4 contre 5.
J'ai peur que Luis Gustavo il soit trop cramé pour jouer au milieu. Ça fait un moment qu'on le voit, même en défense, il est exténué, il finit ses matchs sur les rotules. J'ai peur que jouer au milieu, surtout contre une équipe comme l'Atlético Madrid, il soit totalement cramé.
Oui, mais jouer au milieu contre l'Atlético Madrid dans ce système-là, ça veut dire que sur l'aspect défensif, les deux qui sont au milieu de terrain auront devant eux 3 joueurs qui vont faire déjà le premier rideau. C'est-à-dire que Gustavo, il n'a pas non plus 35 ou 40 mètres à parcourir. Ah, tout à fait. C'est pas comme s'il était seul sentinelle. Tu vois ce que je veux dire? C'est que dans un match comme ça de haut niveau, il n'y a pas de petits efforts. Et le premier défenseur, c'est l'attaquant. Donc, ça veut dire qu'il va falloir être compact entre Ocampos, Payet, Thauvin. Et il va falloir laisser 10 mètres, 12 mètres derrière eux avec Gustavo et Sanson si c'est qui joue. Parce que si eux, ils sont hauts et que les autres, ils sont bas, ça va être fort à la mot.
Ben ça, c'est généralement le cas. C'est vrai que les ailiers marseillais font les efforts, il n'y a aucun problème. Même Germain, il fait les efforts, il n'y a pas de souci. Par contre, moi, si on met Gustavo au milieu, j'ai peur. Sanson, Gustavo, ça n'a jamais marché. C'est 2-8. Il n'y a aucun 6 là-dedans.
Ça avait marché à Rennes. L'OM avait fait un super match, on avait gagné 3-0, et Sanson avait été excellent dans cette position. Moi, personnellement, c'est bon, il y a très peu de choses à reprocher à Rudy Garcia, c'est même pas un reproche, mais avec Morgan Sanson, j'aimerais beaucoup le voir dans cette position-là parce qu'il a un gros volume de jeu, il fait beaucoup de courses. Et justement, je me dis, face à une équipe comme l'Atlético où il va falloir vraiment beaucoup courir et couvrir beaucoup de terrain, Morgan Sanson, ça peut peut-être être plus intéressant que... En tout cas, Maxime Lopez, pour moi, il ne doit pas jouer. Il doit jouer dans cette position-là lorsque l'OM prévoit d'avoir le ballon, d'être dans le camp adverse. Et là, ça ne risque pas d'être le cas. Donc, je pense que Morgan Sanson, moi, il m'a plu dans cette position-là. Mais encore une fois, est-ce que son vécu... il n'a pas un vécu assez grand à ce poste-là avec Gustavo. Donc, je pense qu'on va partir sur Gustavo Zambo parce que c'est une paire solide et que ça compte aussi les automatismes.
Sanson, c'est impossible de ne pas le faire jouer.
Je
suis d'accord. Mais surtout que
je ne sais pas si vous avez vu le match à Guingamp vendredi, mais ça a été le meilleur.
Non, il est partout. Il
a oublié 13 ans. Et puis, cette position de deuxième milieu de terrain… il a eu beaucoup de mal cette saison lorsqu'ils ont joué à 3, qu'il a joué milieu gauche et milieu droit, où il n'arrivait pas à se placer. Il a besoin de voir le champ devant lui. Lorsqu'il a brillé à Montpellier, c'est justement lorsqu'il jouait un peu deuxième milieu terrain avec Jonas Martin ou une sentinelle que, à l'époque, je ne sais plus qui c'était. Mais il a besoin d'abattre. C'est un joueur, le paradoxe, c'est un joueur technique, mais qui a une technique en mouvement, qui pousse le ballon. Ce n'est pas non plus un joueur qui fait des ronds de jambes. Donc, il a besoin justement de faire ce premier petit pressing pour protéger Gustavo dans les impacts et puis récupérer et puis donner l'impulsion, enfin je pense.
C'est un profil Sanson qui peut faire mal à l'Atlético Madrid aussi. L'Atlético Madrid, c'est pas une équipe qui souffre dans sa surface et on a bien illustré ça avant avec le potentiel duel Mitroglou-Godin qui ferait pas de mal à Godin. Alors si l'Atlético Madrid souffre pas dans ses derniers mètres, il faut le faire souffrir avant. Ouais. La force de l'OM, c'est d'avoir ces joueurs qui peuvent créer quelque chose, on va dire, à partir des 30 derniers mètres. Et imaginez ce qui peut se passer dans le dos du double pivot de l'Atlético, s'il y a Payet qui arrive à s'incorporer dans cette zone du jeu, s'il y a Germain qui va redescendre un peu plus bas pour créer dans cette zone, et s'il y a un joueur comme Sanson qui peut arriver en deuxième ligne ou même avec ses conduites de balle dans cette zone-là pour percuter. Il y a une zone d'influence, il y a quelques mètres carrés là devant la surface de l'Atlético où l'OM peut vraiment faire quelque chose. Et le problème pour l'Atlético, c'est qu'il va falloir compenser de partout. Si on est attaqué à droite, si Philippe Luis est attaqué, il y a un milieu qui est sûrement coqué qui va devoir aller le couvrir. Ça va ouvrir de l'espace quelque part. Et par le système que l'Atlético va utiliser, ce 4-4-2, ils seront en infériorité au milieu de terrain, dans ces couloirs centrales ou dans les half space goals, parce que il y aura trois Marseillais face à eux. Dans le dos de ce double pivot, là, il faut créer quelque chose parce qu'on ne peut pas créer dans les derniers mètres. Arsenal l'a montré. Si vous faites courir le ballon face à l'Atlético, il ne souffre pas. Si vous faites courir les joueurs, si c'est les joueurs qui font des courses, si c'est les joueurs qui ont une grande liberté positionnelle, alors là, ça peut être plus difficile à gérer pour cette équipe-là.
Oui, surtout qu'en plus, Gabi fait son âge, il a 34 ans. Je trouve que là, il est vraiment, vraiment en bout de course. C'est un joueur que j'aime beaucoup, mais il reste très, très nerveux. Justement, je voudrais poser une question à Brahim, donc émérite défenseur central. Rolando Rami contre Costa, est-ce qu'il n'y a pas moyen de faire dégoupiller Costa?
Je me demande si ce n'est pas l'inverse, hein, Brahim. Hein.
Je pense que C'est une bonne question, mais il y a tellement de réponses.
On a le temps.
Non, mais on a tellement de réponses parce que Costa, qui est un chien-né, mais qui a une capacité à subir, à emmagasiner, à pouvoir se venger à tout moment, et qui a coutume d'envoyer, mais Diego Costa, alors j'ai pas ses stats, mais de mémoire, je ne l'ai pas vu dans les zappings où il a déboussé, il a dégoupillé, il a pété un plomb, il a embranché quelqu'un, il a pris un carton rouge. Ce n'est pas arrivé si souvent. Par contre, il rentre dans la moulure à chaque attaque parce qu'il sait qu'il va gêner. Moi, j'ai plus peur pour Rami que pour Rolando, par exemple.
Bah surtout que ça, il commence à avoir, je crois que c'est 60.
Parce que mais Rami va être déjà lobotomisé Costa avant le match. Bon, moi, j'ai joué à ce poste-là et je me faisais un honneur de mettre des coups aux gens, c'était un plaisir. C'était mon métier. Mais oui, j'avais déjà l'idée de faire craquer l'attaquant. Sauf que là, il va falloir prendre en compte le paramètre psychologique d'une finale, le paramètre collectif de l'équipe, parce que c'est bien beau de vouloir gagner son duel contre Diego Costa, mais si tu perds tes duels et tu prends des cartons, tu mets en difficulté ton équipe. Mais c'est toute l'attractivité d'une finale et d'un match de haut niveau. Et je pense que dans ce jeu-là, Diego Costa, il a un master. Il a un master universitaire.
On parle justement, tu as raison, Brahim, parce qu'on parle d'un mec qui adore ça, le duel.
Mais évidemment, il se nourrit de ça.
Il adore ça, la bagarre. C'est un charognard. S'il faut mettre la tête dans un ventilo, il va la mettre. Il s'en fout. S'il faut se battre avec Rami, eh ben, ils vont se battre.
Bien sûr.
À la loyale, bien entendu. Mais je pense que celui qui peut plus vite péter les plombs, c'est plutôt Rami que lui.
Hein. Évidemment. Moi, je suis Cholo Simeone demain. J'ai dit à Diego Costa, le premier duel, tu lui rentres dedans.
Mais surtout que.
Pour tester. Voilà. Parce que c'est comme ça. Et si je suis Rami, si je suis Rudy Garcia, je dis à Rami, le premier ballon, tu lui mets un parpaing. Tu prends jamais de carton jaune sur le premier duel, t'inquiète pas. Mais emmanche-le. Qu'il sache chaque fois que tu vas toucher le ballon. Voilà, c'est comme ça qu'on gagne son duel dans un match. Voilà.
Le Brahim, l'exemple le plus flagrant, c'est la finale de 2004 entre Valence et l'Olympique de Marseille. Le premier ballon qu'a Ayala.
Oui, il a gagné son match, Ayala, son premier duel.
Il emplace Drogba. Et Drogba, on l'a plus
revu. Exactement. C'est des petits détails de foot. Alors, je n'incrimine personne autour du téléphone, mais pour l'avoir vécu, il faut le vivre pour le savoir ou le croire ou le voir. Moi, j'ai eu des entraîneurs qui m'obligeaient sur le premier ballon à mettre un tampon. Il m'a dit, ça m'est arrivé une fois avec, je m'en rappelle avec Jean-Louis Gasset, avec Auxerre, j'ai chargé Salomon Kalou. Il m'a dit, premier ballon, si tu l'emmanches, on a gagné le match. Parce que c'est le meilleur joueur. Et tu vas voir qu'on va gagner le match. Au premier ballon, j'ai mis un parpaing, j'ai pris un carton jaune. Après, c'est pas grave. Et après, le deuxième ballon, lorsque l'attaquant va le recevoir, comme ça peut arriver pour Diego Costa, il va se dire, je sais que dans mon dos, quoi qu'il arrive, il y a un mec qui arrive, il va m'en mancher. Donc déjà, tu réfléchis à ce qui arrive dans ton dos, alors que le ballon n'est même pas arrivé. Donc, t'es plus dans une logique corporelle d'action de jeu. Tu réfléchis à ce qui peut t'arriver. Et là, tu commences déjà à gagner ton match.
Mais je suis d'accord, mais en plus, ce qu'il faut dire, c'est la fraîcheur. On sait que Titi est très bon pour tuer les matchs et profiter de la moindre erreur. On l'a vu contre Arsenal ou à l'aller, ils ont une demi-erreur. Il y a une demi-erreur de Koscielny. Griezmann réussit à les tuer avec
Alizé.
Et là, la fraîcheur physique, là, je crois que Marseille, c'est leur 61e match. Rami et Gustavo, c'est les joueurs les plus utilisés en Europe, il me semble. Rami, c'est sûr. Gustavo, je suis pas sûr. Mais ils ont énormément joué et ils vont craquer. Vous avez parlé de Payet, de Thauvin, des Artuto autour de Costa.
Ah, j'ai pas dit qu'ils vont craquer, attention.
Non, non, mais
pas que moi, je veux que Marseille gagne. Hein. non, mais c'est vrai que bon, physiquement, ça va être dur, évidemment. Surtout que bon, le match contre Retafe, il a pas été d'une grande intensité. Ils sont quand même assez reposés dans ce match-là. C'était quand même un match gagné tranquillement, sans forcer. Tandis que les Marseillais ont dû cravacher dans un match compliqué à Guingamp vendredi.
Mais pas Rami ni Rolando qui étaient suspendus et blessés.
Ah ouais.
Mais ceci dit, et l'autre point positif sur notre charnière centrale, c'est qu'elle réussit, même si Rami, ça met des coups, ça prend pas trop de cartons. Il arrive à faire ça de manière assez intelligente, j'ai l'impression, parce qu'il me semble, j'ai pas envie de dire de bêtises, mais de tête, je crois qu'il a pris 5 jaunes sur toute la saison de Ligue 1. Donc, c'est quand même assez correct. Et après, là, je fais plutôt appel à vous qui regardez la Ligue 1, mais même en Ligue 1, il me semble qu'il arrivait assez fréquemment à éviter le rouge et.
Ouais, oui, mais après, bon, prendre des rouges, c'est pas non plus. Prendre des jaunes pour un défenseur, ça peut paraître logique. Après, Rami n'est pas non plus l'archétype du défenseur un peu stopper, très rigoureux. Il a quand même un côté assez habile à vouloir jouer un petit peu avec le ballon. Ouais, c'est Rami, il a plus de similitudes avec un Varane qu'un Umtiti, quoi.
Il avait une réputation contrastée, Rami, notamment à Valence, il disait qu'il était capable de complètement sortir de son match. Un petit élément extérieur le faisait un peu perdre de concentration.
Demandez à Antonio, il a dû voir des Valence Villarreal, ça.
What? J'ai l'impression qu'il parle trop ça cette année. Rami, il a pas, à part contre Salzbourg, quand on a commencé à prendre le deuxième but et que derrière, on a failli en prendre un bouillon et que c'était n'importe quoi là, dans la défense, je n'ai pas de souvenir de moment où Rami vraiment a eu des moments d'absence et où il a des goûts.
Je vais vous prendre un exemple très simple. Rappelez-vous, vous avez tous vu, d'ailleurs, c'est ce qui l'amène à ne pas pouvoir jouer en Ligue 1 contre Lyon.
Mm-hmm. Ouais.
Contre Lyon, il se fait un peu provoquer. Oui, après, il met un coup d'épaule. Un petit peu en représailles et c'est un geste qui a entraîné d'autres choses derrière, mais ça demain ça va être décuplé.
Et contre Lyon, il était physiquement c'était dur pour lui puisqu'il avait enchaîné une vingtaine de matchs en un mois, il était cramé, il avait fait un match très mauvais. Je pense que c'est pour ça aussi qu'il a un peu dégoupillé en fin de match parce qu'il devait savoir qu'il avait raté son match, comme Rolando d'ailleurs. Donc Bon, moi j'ai peur sur
le... De toute façon, il y a une chose à laquelle il faut tenir compte, c'est que l'Atlético est parfait. Il a joué à Valence, il a joué à Séville ensuite. Les joueurs de l'Atlético le connaissent parfaitement.
Hein. Bien sûr.
Bah, d'ailleurs,
comment agir sur lui, c'est les mecs de l'Atlético. Enfin, les mecs de l'Atlético, je veux dire, les gars du championnat d'Espagne. Hein, donc, ça ne va pas être un problème pour eux, hein, je pense.
Justement, j'ai fait un rêve, c'est que Rami donne la même balle d'ouverture de 50 mètres pour Soldado qui vient de voler sous la barre contre l'Atlético il y a quelques années. En 2012, je rêve qu'il fasse la même pour Germain. Un truc complètement insoupçonnable et insoupçonné. Et il arrive et ça donne la victoire à l'OM.
Mais encore faut-il que Germain la mette.
Oui, mais parce que son pied sera téléguidé, c'est tout. C'est... mais à propos de joueurs majeurs de l'équipe, on va terminer sur l'OM en parlant de Payet et Touvin, qui sont souvent réputés pour... de passer à côté des gros matchs, en fait. Quand c'est beaucoup, beaucoup d'enjeux, ils ont la réputation de un peu pas être trop là, en fait, et de briller beaucoup moins qu'à l'accoutumée. Est-ce que vous craignez que, en plus, dans un double rideau comme ça, les deux lignes de 4, ils soient étouffés complètement par l'Atlético?
Bah, je pense que c'est déjà difficile de jouer contre l'Atlético, quel que soit le joueur. Mais après, cette réputation, elle est... Moi, je ne suis pas tout à fait d'accord avec ça, et ils ont raté des gros matchs, mais par exemple, la défaite contre Lyon, Payet fait un excellent match, mais on perd à la fin du match, donc voilà. Thauvin fait un mauvais match contre Lyon, mais parce qu'il revenait de blessure, à mon avis, il était revenu trop tôt. Lors de la double confrontation contre Paris, il fait un très bon match à aller au parc, mais son équipe ne marque pas, il réussit des défenses individuelles sur Kurzawa, mais derrière, ça suit pas, donc il peut pas non plus tout faire. Donc il y a un peu, on appuie beaucoup là-dessus, je trouve, dans les médias sur leur incapacité à faire la différence dans les grands matchs, et je pense que c'est collectivement, comme je l'ai dit, Thauvin, moi, contre Paris, au parc, je le vois faire des différences individuelles. Et puis, au bout de ses centres, au bout de ses passes, il n'y a personne, il n'y a pas de mouvement. Donc, c'est plus un problème collectif, notre problème dans les gros matchs. Mais comme ce sont nos joueurs clés, on les stigmatise beaucoup, quoi. C'est mon avis.
Je te dis ça parce que je suis très critique envers Payet, assez régulièrement. Donc, c'est pour ça... j'ai toujours l'impression, en fait, j'ai l'impression que c'est un très bon joueur qui peut donner chaque fois plus dans les gros matchs. Alors, c'est évidemment, voilà. Puis surtout, c'est le joueur qui a coûté le plus cher, qui a le meilleur salaire, et donc, fatalement, il doit faire une saison complète. C'est évidemment, tu demandes beaucoup parce que c'est ton franchise player, on va dire, en quelque sorte.
Ouais, mais c'est bon. Regarde à l'Euro, la France, si on s'en sort en phase de poule et au début de l'Euro, c'est parce que Payet, justement, il nous porte. Et il me semble que l'Euro à domicile, c'est quand même des matchs en jeu. Thauvin, c'est pareil. Donc oui, effectivement, Moral l'a dit, contre le PSG à Paris, il a fait son gros match. Il a éliminé Kurzawa un nombre de fois incalculable, mais derrière, ça n'a pas suivi. À l'aller, il a aussi fait son match. Il y a pas mal de matchs sous pression qui sont pas forcément des gros matchs bien télévisés, mais pour lesquels on avait une victoire impérative, pour lesquels il a été là, il a fait la différence. Alors, il a du déchet, hein, c'est sûr. Mais voilà, je partage pas non plus forcément cette...
Enfin, y a quand même aussi quelque chose d'important dans cette finale pour les deux, c'est que moi, je pense que les deux, il y en a un des deux qui joue sa place en équipe de France mercredi.
Oui. Après, autant pour Payet, je me fais pas trop de soucis sur le fait qu'il aille à la Coupe du Monde.
Moi, je suis pas d'accord parce que Payet, ça fait un mois et demi qu'il est bon.
Ouais, mais c'est au bon moment.
S'il fait un mois et demi, Thauvin porte l'équipe depuis beaucoup plus longtemps.
Mais Thauvin, justement, Payet est justement réputé également pour finir ses saisons très très fortes.
Ouais, exactement.
Après, Payet a moins de concurrence de par son style de jeu et de par ses qualités sur coup de pied arrêté. Il y a moins de concurrence en France qu'un ailier comme
Thauvin. Mais la dernière sélection, Thauvin y était, Payet n'était pas.
Oui.
Après, vraiment pour un peu retour sur le sujet, je pense que ils sont dépendants du collectif eux aussi. Après, forcément, la différence, c'est qu'un joueur comme Payet, c'est un peu celui qui conduit le collectif, quoi. S'il est dans un bon jour, il peut élever le collectif à un autre niveau. Mais bon, voilà, ils sont dépendants du collectif, donc ils feront un gros match si l'équipe fait un gros match. Je suis désolé, on dirait la conférence de presse d'avant-match, désolé.
C'est peut-être pas le plus gros match qu'on ait eu, mais c'est quand même un match en jeu contre le Tchik au stade, au Vélodrome. Le match de Payet, il est 5 étoiles. Ok, c'était pas la grosse ambiance, le Tchik avait un style qu'il a favorisé parce qu'il y avait énormément d'espace et il a pu bien se glisser entre lignes. Mais il sait revêtir ce costume de sauveur et d'équipe de joueurs qui arrivent à faire surjouer ses équipes et à les sortir de mauvais coups. Après, le truc, c'est est-ce que le jeu de l'Atleti n'est pas fait pour le faire briller? C'est une équipe qui va énormément fermer les espaces, qui va toujours avoir quelqu'un sur son dos, il va avoir du mal à se retourner. Donc c'est sûr qu'il va être mis face à ce qu'il n'aime pas faire. Parce qu'il n'est pas très fort ou c'est pas ses qualités. Donc c'est sûr que ça va être un match clé pour lui. Est-ce que ça va déterminer sa place en équipe de France? Je ne sais pas. C'est sûr que c'est un match qui va déterminer s'il est enfin réussi à devenir un très 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 grand joueur, comme on l'attend depuis pas assez longtemps, mais depuis quelques temps, ou c'est juste un joueur d'à-coup qui arrive à nous faire briller par moment.
Ouais, voilà. Un vrai leader. C'est un joueur de Stras et Payet. Non, mais voilà, il sera dans la configuration demain. Les deux, d'ailleurs, comme beaucoup de joueurs, dans les configurations, match de très haut niveau, type Coupe du Monde. Donc, à la Coupe du Monde, on ne ramène pas des joueurs pour faire le complément ou pour remplir la feuille de match. On ramène des joueurs qui sont capables d'apporter quelque chose, de changer le cours d'un match. Et c'est ce genre de joueurs-là qui fait la différence, notamment sur le plan offensif. Et ces deux-là en font partie.
Dernier mot sur l'Olympique de Marseille. Qui vous voyez en gardien de but et en latéral droit? Est-ce que vous voyez Mandanda ou Pelé ou Sakai ou Bounassar?
Alors, a priori, Rudy Garcia a annoncé Mandanda aujourd'hui à la grande conférence de presse. Il a dit un gardien numéro 1, gardien numéro 2, c'est le gardien numéro 1 qui va jouer. Par contre, pour Sakai ou Sar, pour les mêmes raisons que je verrais bien Germain et Sanson, je verrais bien Bounassar. J'adore Sakai, mais s'il faut qu'on joue notre jeu, il faut Bounassar.
Ouais, mais alors, si tu mets Bounassar, ça veut dire que tu mises aussi sur les imperfections défensives de Bounassar, qui est sur aussi ses possibilités offensives, conjuguées à un Sanson et aux quatre devant. Ça veut dire que si tu mets Sakai, d'ailleurs, je pense qu'il a joué vendredi pour retrouver des repères et du rythme en prévision de la finale mercredi, il a évidemment beaucoup plus confiance en la rigueur défensive de Sakai, bien et sûr, notamment face à Felipe Luis, que Bounassar, qui était en plus touché un petit peu à l'épaule, qui n'a pas été encore conforté à 100% sur son état physique. Moi, je me suis amusé hier dans mon émission d'écrassage avec Luis de faire une équipe avec Mandanda, Sakai, j'avais mis Rolando, Rami, Amavi, Luis Gustavo, Sanson, Ocampos, Payet, Thauvin et Germain. Je pense qu'on ne sera pas très, très, très loin de cette composition d'équipe.
Bah, pour moi, si on met Sarr, il faut mettre Sanson. Il faut mettre Zambo au milieu.
Oui. Ouais, il faut apporter une autre garantie défensive avec lui parce que il va être tenté de monter. Sauf que
Oui.
Et on l'a vu là contre l'Atlético, contre Retafe. Je ne sais plus à quel moment, à un moment donné où justement Retafe a perdu le ballon dans le milieu de terrain et derrière la façon dont Diego Costa et Grisou à 2 contre 3-4, ils sont projetés, ils ont amené le ballon jusqu'à la surface adverse. Et là, on est dans le très très haut niveau. Il n'y a pas de place à la demi-mesure. Déjà, contre Guingamp vendredi, l'OM. Et c'est ça que je voulais dire tout à l'heure, parce que vous en parliez, vous disiez que l'OM aime bien aller presser vendredi à Guingamp. Ils sont allés faire un pressing très très haut. Zambo a perdu le duel. Derrière, il y a eu, je crois, c'est le tacle raté de Sertic qui ont un contre un qui veut tacler à la médiane et but. Penalty, oui. Carton rouge. Eh ben, c'est les détails du très haut niveau. C'est du 100%, quoi.
Et toujours dans cette idée, c'est vrai que Sarr, il progresse, enfin, il bluffe tout le monde, hein. Je pense qu'on peut le dire, mais il apprend encore à ce poste et il a des attitudes, des fois, qui sont pas tout à fait celles d'un défenseur au niveau de ce positionnement de son corps. On se souvient à Saint-Etienne où il passe pas le corps devant Berić, il me semble. Ouais. Il y a quelques petits trucs comme ça et contre l'Atlético, je pense que ça fait un peu peur quand même parce qu'on a des joueurs de très 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 haut niveau devant, donc c'est vrai que Sakai donne plus de garanties. Ceci dit, il a été en extrême difficulté contre Guingamp face à Marcus Thuram qui lui a vraiment fait beaucoup de choses pas très appréciables en live.
Dans des matchs comme celui de demain, ça va se jouer à des détails, hein. Et les détails, c'est ça, hein.
Pour moi, honnêtement, si c'était un match aller-retour et qu'on jouait l'aller, oui, Sakai pour sécuriser. Sur une finale, d'autant plus sur une finale sur laquelle on part outsider, je ne vois pas d'autre solution que de jouer son jeu, de prendre le risque et de mettre de l'allant offensif. Donc oui, on sait que Bounassar, c'est pas top à droite, comme défensivement, à ma vie, c'est pas fabuleux non plus. Mais pourtant, Sakai, il ne nous apportera pas offensivement.
T'en as pas besoin de Sakai offensivement quasiment, parce que si tu joues avec les 4 devant plus Sanson, ça te fait 5 joueurs pour attaquer et 5 pour défendre, c'est largement suffisant. S'il y a 5, t'es pas capable de d'attaquer, et c'est, tu vois ce que je veux dire?
Oui, mais dans ce cas-là, on dépend du gros match ou non de Thauvin. Parce que autant à gauche, on peut dédoubler entre Ocampos et Amavi. Avec éventuellement un Sanson qui fait le relais. Autant à droite, s'il n'y a pas Thauvin, il n'y a plus personne.
Après, Thauvin et Sakai, ça s'entend quand même très bien. Et Thauvin a régulièrement vanté les mérites de Sakai parce que sans Sakai, il a régulièrement dit qu'il
ne réussirait pas. Parce que c'est ça qu'il faut savoir, c'est ça qui est intéressant. C'est que la liberté totale d'esprit de Thauvin, parce qu'il sait qu'il y a Sakai derrière, ça, c'est un plus. Et l'association Bounassar, Thauvin, sachant que Thauvin, il sait que Bounassar aime monter, donc il a quand même l'obligation, et j'imagine qu'il y pense, il doit savoir que si Bounassar monte, il y a quand même peut-être de temps en temps des couvertures à faire dans son dos. C'est pas le même Thauvin. Moi, j'ai eu la chance de jouer dans une équipe à Caen où on avait une équipe qui était portée vers l'avant, où on avait un système en jouant en 4-4-2, où il y avait 5 joueurs qui défendaient et 5 joueurs qui attaquaient. Et les 5 joueurs qui attaquaient, nous-mêmes, on leur disait « attaquez librement, attaquez, c'est pas grave ». Allez à fond, allez jusqu'au bout de votre idée. Si vous perdez le ballon, vous perdrez le ballon. Nous, on va défendre. Vous reviendrez quand vous aurez le temps de temps en temps. Il faudra faire un remplacement. Mais si moi, déjà, je commence à calibrer les joueurs offensifs parce qu'ils savent qu'il faut peut-être défendre, déjà, tu les freines. Donc, c'est pour ça que Sakai, il va sécuriser Thauvin dans son esprit de se lâcher parce qu'il va falloir faire un grand match, sachant que Sakai... Et on l'a vu ces derniers matchs avant qu'il se blesse quand même 2-3 fois. Il s'est très bien incorporé de qualité. Je pense même qu'il a une qualité de centre aussi en mouvement, peut-être plus intéressante que Bounassar, qui n'est pas encore un spécialiste du poste.
Oui, c'est vrai que le centre à terre en retrait et en pleine course de Sakai, c'est un peu.